Voilà, ça commence à enregistrer. Donc, vous vous rappelez, la dernière fois, nous avons travaillé sur le sacrement de l'ordre, et donc dans ces trois formes, telles qu'on les connaît depuis l'Antiquité, le diaconat, le presbytérat, l'épiscopat, ou l'inverse, comme nous l'avons vu, tel que le dit le rituel, épiscopat, presbytérat et diaconat, selon la vision ancienne reprise par le rituel français. Et donc, nous avons vu aussi l'importance de la célébration qui s'est recentrée, si je peux dire, avec la restauration de la liturgie avec le Concile Vatican, après le Concile Vatican II, c'est à privilégier. Comme il fallait l'imposition des mains pour les trois ordres et a mis en second plan ce qu'on appelle la transmission des instruments, c'est-à-dire des symboles qui définissent le propre du ministère suivant qu'on soit diacre, presbytre ou évêque. Et je vous avais proposé. Ce soir, je voudrais faire un petit prolongement de ce cours pour voir un peu le but, c'est de voir que quand même il y a eu ces dernières années des évolutions dans la manière de concevoir le ministère, les ministérialités, notamment dans la prise en compte de ministères qui pourraient s'ouvrir aux laïcs. Et entre autres, une plus grande attention à la place des femmes dans ces ministères. Et donc, nous allons voir deux aspects de ce qu'on peut vraiment considérer comme une évolution dans l'Église catholique romaine, parce que jusque-là, on n'avait pas pensé ou osé, comment on peut dire ça? Oui, penser, oser. D'ouvrir à une reconnaissance de ministère, de l'ouvrir cette reconnaissance aux femmes. Et donc, on vous a envoyé pour ce cours deux documents que je vais partager l'écran et vous le verrez dans l'écran. Voilà. Vous l'avez reçu, donc, cette lettre du pape François au préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi sur l'accès des femmes au ministère du lectorat et de l'acolytat. Nous sommes là, entre autres, nous rentrons dans les mécanismes de la prise en compte de l'Église catholique, de la manière dont l'Église catholique peut effectivement, comment on peut dire ça, prendre en compte une réforme, une évolution, voilà. Et vous voyez bien que cette lettre, elle n'est pas datée, que moi, je n'ai pas vu la date, on a cherché ça cet après-midi, mais je ne crois pas que j'ai vu une date, mais je peux vous la donner. Cette lettre a été écrite par le pape et envoyée donc au préfet pour la Congrégation pour la doctrine de la foi. À l'époque, on l'appelait encore Congrégation pour la doctrine de la foi. Aujourd'hui, c'est un dicastère, comme vous le savez. Donc, vous voyez bien que le pape dit à mon vénéré frère, monsieur le cardinal Luis Ladaria, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Et donc, cette lettre a été envoyée par le pape le 10 janvier 2021. Le 10 janvier 2021. Et pour que vous soyez au courant, le motu proprio qui permet, qui instaure l'accès des femmes au ministère de lectorat et l'acolytat va être publié donc publiquement le 11 janvier 2021, c'est-à-dire le lendemain de l'envoi de cette lettre. Vous vous rappelez, on l'a vu, je pense, déjà avec le sacrement de confirmation, on l'a vu la dernière fois avec le sacrement de l'ordre. À l'époque où le rituel sortait, après le Concile Vatican II, je vous avais fait remarquer que certains rituels étaient accompagnés d'une lettre apostolique, vous vous rappelez, qui, comment dire ça, consolider ou donner autorité à la publication de ce rituel. On peut penser qu'il y a la même volonté dans cette double publication, d'abord d'une lettre, cet envoi de cette lettre qui précède le motu proprio et donc qui permet d'expliquer du pourquoi le pape décide. Parce que je vous fais remarquer que, comme le dit le mot, un motu proprio vient de la volonté du pape lui-même. Donc c'est le pape qui prend l'initiative de prendre une décision, voilà, qui peut avoir des conséquences après pour l'Église tout entière. Et c'est le cas de cette institution de permettre l'accès des femmes au ministère de l'Octorat et d'Acolita. Et donc, voilà, la lettre précède la publication du motu proprio. Vous voyez bien, d'abord, il y a cette perception des sacrements, ça peut être même une définition des sacrements, à travers les sacrements du baptême, de la confirmation, de l'Eucharistie, les membres du corps du Christ reçoivent de l'Esprit des ressuscités à des degrés variables, avec une diversité d'expressions, les dons qui leur permettent d'apporter leur contribution nécessaire à l'édification de l'Église et à l'annonce de l'Évangile à toutes les créatures. Donc, l'idée que tout ministère naît du baptême, des sacrements, de l'initiation, baptême, confirmation et Eucharistie. Le pape fait un petit détour dans le Nouveau Testament en disant que ces dons sont appelés grâce ou charisme ou service par Paul dans l'Écriture. Et puis, donc, il va de manière plus précise se référer au sacrement de l'ordre que nous avons. Dont nous avons parlé la dernière fois. Le ministère tire son origine, dans certains cas, le ministère tire son origine d'un sacrement spécifique, l'ordre sacré. Il s'agit des ministères ordonnés de l'évêque, du prêtre et du diacre. Dans d'autres cas, le ministère est confié à travers un acte liturgique de l'évêque à une personne qui a reçu le baptême et la confirmation et chez laquelle sont reconnus des charismes spécifiques après un chemin de préparation adapté. On parle alors de ministère institué. Oui, la différence est assez importante. Importante, il faut la retenir. Il y a d'un côté les ministères ordonnés. Ce qui est intéressant, c'est que il ne veut pas dire ils ont une place centrale. Dans certains cas, le ministère tire son origine d'un sacrement spécifique. Mais dans d'autres cas, donc, vous voyez, on tient large la vision de la ministérialité. Il y a cette idée de ministère institué. Donc, la différence, la distinction entre ministère ordonné, ministère institué. Vous voyez bien que le ministère ordonné, pour aller un peu plus loin, le pape ne le dit pas de cette manière, mais nous l'avons vu, sont reçus ces ministères ordonnés par une imposition des mains. Nous l'avons vu, l'importance de l'imposition des mains. Par contre, les ministères institués, le pape le dit bien, à travers un acte liturgique de l'évêque à une personne après une préparation. Donc, on est dans une première prise en compte de ce que sont les ministères, qu'est-ce que sont les services dans l'Église. Alors, il revient pour spécifier ces deux ministères, ou ces formes de ministérialité. Les premiers, donc, sont deux expressions particulières de la condition sacerdotale et royale propre à chaque baptisé. Et donc là, en vérité, il fait référence au ministère institué. Les seconds sont propres à quelques-uns des membres du peuple de Dieu qui, en tant qu'évêques et prêtres, reçoivent la mission et la faculté d'agir en la personne du Christ tête. Donc, vous voyez, donc, il y a l'idée que de cette distinction à laquelle je vous ai invité à réfléchir entre le tous et quelques-uns. Donc tous, par le baptême, vivent leur condition de prêtre, prophète et roi, hein, propre à chaque baptisé. Et donc, les ministères institués tirent leur force, leur signification de cet aspect baptismal. Les seconds, par contre, sont propres à quelques-uns des membres pour, effectivement, se mettre au service des autres, du peuple de Dieu en tant que tel. Et puis le pape souligne qu'il est bon de rappeler, avec la constitution dogmatique Lumen Gentium, donc celle sur l'Église, hein, du Concile Vatican II, qui sont ordonnés l'un à l'autre. L'un et l'autre, en effet, selon son mode propre, participent de l'unique sacerdoce du Christ. Donc, vous voyez, pour ne pas opposer les deux formes ordonnées, instituées, le pape souligne quelque chose d'important. Ce n'est pas que les prêtres sont plus que ceux, les fidèles qui reçoivent le ministère institué. L'un et l'autre sont ordonnés l'un à l'autre. Donc, c'est très important, cela, hein, de le souligner. Donc, selon un mode propre, ils participent à l'unique sacerdoce du Christ. Donc, que ce soit des ministères ordonnés ou du ministère institué, les deux font référence à l'unique sacerdoce du Christ. Après, le pape fait une petite historique de la manière dont l'Église catholique a pu en arriver là, c'est-à-dire comment on peut, pourquoi on sent le besoin d'ouvrir à l'accès aux femmes pour qu'elles puissent accéder au ministère de lectorat et de acolytat. Et avant de poursuivre, il y a une question de Anne. Anne, je vous écoute.
Oui, s'il vous plaît, je ne comprends pas bien. Un peu plus haut, il y avait marqué que les ministères institués n'agissent pas en la personne du Christ tête.
Oui.
Mais ils participent aussi de l'unique sacerdoce du Christ.
Oui, oui.
Ben
oui.
Moi, je ne vois pas bien la différence entre les deux. Est-ce que ça veut dire l'histoire du Christ tête?
Oui. Là, en effet, c'est une expression qui vient probablement de, je pense, encore une réflexion qui était faite par Pie XII, hein, donc cette idée de on représente, si vous voulez, le corps ecclésial ou l'Église à la manière paulinienne, hein. Il y a un corps et une tête. Vous rappelez l'idée de saint Paul sur l'analogie avec le corps humain, hein. Et donc, à la suite aussi d'Augustin, on considère que le Christ est la tête et le corps de l'Église, et l'Église est le corps dont le Christ est la tête. Et donc, on dit ceux qui sont ordonnés, qui ont un mystère ordonné par l'imposition des mains, effectivement, comme dit le texte, reçoivent la mission et la faculté d'agir en la personne du Christ tête, c'est-à-dire représente. Alors, vous savez que dans la théologie catholique, on a pu avancer cette expression de « in persona Christi et Ecclesia », dans la personne même du Christ et de l'Église. Donc, ils agissent un peu comme s'ils étaient représentants, ou comme s'ils étaient les orthodoxes disent que c'est une icône du Christ lui-même. Les fidèles, par contre, effectivement, vivent de ce sacerdoce du Christ, mais d'une manière, relative, pas relative au sens que ce soit moi, mais d'une autre manière, ils expriment d'une autre manière ce sacerdoce qui vient du Christ lui-même. Ça va mieux, Anne?
Oui, merci.
Et donc, je t'interdis, oui, que le pape fait une petite excursus historique. Elle montre que la première évolution de cette perception des ministères vient dans la ligne du Concile Vatican II, et la première position était celle donc d'une lettre apostolique, à nouveau sous forme de motu proprio, qui avait comme incipit ministeria quaedam, certains ministères, s'il fallait les traduire en français, du 15 août 72, qui, ce motu proprio, configurait deux charges, deux tâches, celle de lectorat et celle de l'acolita, voilà, liées au ministère de la parole et au ministère de l'autel, et donc qu'il est à l'époque les pensées comme pouvant être adressées aux laïcs aussi. Mais à l'époque, c'était des laïcs hommes, ça y est. On a pensé que ce motu proprio aurait pu ouvrir le ministère de lectorat et d'acolita à des hommes mariés, par exemple, comme on l'avait fait pour le diaconat, vous le voyez bien. Pourquoi cela? Parce que jusqu'en 72, l'accès à l'institution de lecteur et d'acolyte était réservé simplement aux séminaristes qui allaient vers le sacerdoce. Voilà. Et donc, le motu proprio ministeria quaedam avait déjà tenté. Mais en vérité, on n'en a fait rien. C'est-à-dire, on a pris un peu peur de cette possibilité d'ouvrir des ministères institués qui étaient réservés à ceux qui accédaient au sacerdoce, au presbytérat, pour nous entendre, de l'ouvrir aussi à des laïcs. Et donc, le pape dit, il montre que il y a une évolution dans la société et dans le monde, et donc il arrive à affirmer ceci dans la lettre: c'est justement ce service unique, bien que distinct, en faveur du monde, qui élargit les horizons de la mission ecclésiale, l'empêche de se renfermer dans des logiques stériles destinées surtout à revendiquer des espaces de pouvoir et l'aidant à faire l'expérience d'être une communauté spirituelle qui fait route avec toute l'humanité et partage avec les sorts terrestres du monde. C'est dans cette dynamique que l'on peut vraiment comprendre la signification de l'expression « Église en sortie ». « Église en sortie », vous le savez, vient justement de l'exhortation apostolique « Evangelii Gaudium », n'est-ce pas? Et donc, c'est dans ce contexte de cette perception d'une Église en sortie que le pape dit: il y a une nécessité de penser à des nouveaux chemins pour la ministérialité ecclésiale. Donc il suffit plus de penser la ministérialité de la manière dont on a passé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire comme réservée tout simplement aux diacres, aux prêtres et aux évêques. Alors il fait référence notamment à l'Église amazonienne. Vous vous rappelez qu'on avait eu un synode sur cette question-là, et on avait tenté déjà au cours de ce synode de réfléchir sur la possibilité d'ordonner prêtres des hommes mariés, mais le synode n'a pas produit ce que probablement on aurait souhaité, tout s'est congelé, si je peux dire. Mais voilà, l'avancée, c'est que donc c'est celle-ci, là où le pape dit: toutefois, ces derniers temps et dans de nombreux contextes ecclésiaux, il était noté que la levée d'une telle réserve pourrait contribuer à manifester davantage la dignité baptismale commune des membres du peuple de Dieu. Et donc il continue: à l'occasion de la 12e Assemblée générale ordinaire du synode des évêques sur la parole de Dieu. Vous savez que chaque synode a un thème. La 12e assemblée avait comme thème la parole de Dieu. Voilà. Les pères synodaux avaient déjà souhaité que le ministère du lectorat soit ouvert également aux femmes. Donc, le texte continue. une distinction plus claire entre les attributions de ce qu'on appelle aujourd'hui les ministères non ordonnés ou laïcs et les ministères ordonnés permet de lever la réserve des premiers au seul homme. Jusque-là, c'était réservé, celle de ministère institué au lectorat et la collecta, c'était réservé aux hommes. Et donc, il dit, il faut, cela permet de lever la réserve, que ce soit destiné simplement aux hommes. Et puis, plus loin, il dit, offrir aux laïcs des deux sexes la possibilité d'accéder au ministère de l'acolita et du lectorat en vertu de leur participation au sacerdoce baptismal augmentera la reconnaissance, y compris à travers un acte liturgique, l'institution. Donc c'est ça qui change, je reviendrai sur cette idée-là, de la précieuse contribution que depuis longtemps de très nombreux laïcs, notamment des femmes, apportent à la vie, à la mission de l'Église. Et donc, pour ces motifs, j'ai considéré comme opportun d'établir que puisse être institué lecteur ou acolyte, non seulement des hommes, mais aussi des femmes, chez lesquelles, à travers le discernement des pasteurs, après une préparation adéquate, l'Église reconnaît la ferme volonté de servir fidèlement Dieu et le peuple chrétien, comme il est écrit dans le motu proprio, ministeria coedam, en vertu du sacrement du baptême et de la confirmation. Le choix de conférer également aux femmes ces charges, qui implique une stabilité, une reconnaissance publique, et le mandat donné par l'évêque, rend plus effective dans l'Église la participation de tous à l'œuvre de l'évangélisation. Donc, je m'arrêterai là pour cette lettre, mais je crois que oui, voilà. Bon, là, il insiste, le ministère s'enracine dans le sacrement du baptême et de la confirmation. Ceux qui sont institués lecteurs et acolytes comprendront mieux qu'ils participent à une ministérialité commune avec d'autres baptisés, hommes et femmes. Voilà, de sorte que le sacerdoce propre de chaque fidèle et le sacerdoce des ministères ordonnés se montre encore plus clairement ordonné l'un à l'autre, il avait déjà souligné cela, pour l'édification de l'Église. Alors, vous voyez bien, bon, j'arrête pour le moment là, et vous avez compris quelle est la différence, parce que l'objection qu'on fait toujours est celle-ci, mais au fond, des femmes ou des hommes laïcs ont toujours fait la lecture à l'Église ou ont toujours peut-être donné la communion, distribué toujours. Ça se fait que des laïcs distribuent la communion ou lisent les lectures à l'ambon. Ce qui change, justement, c'est ce que disait le pape un peu auparavant, c'est-à-dire cela, ça se faisait, mais n'était pas reconnu en tant que tel. Et là, il y a une reconnaissance publique, c'est un acte liturgique qui institue les laïcs, hommes comme femmes, à cela. Vous comprenez bien que c'est un... Bon, ça paraît peu, mais c'est énorme pour l'Église catholique, hein, qui ouvre, entre autres, qui élargit la vision de la ministérialité et l'ouvre aux femmes, entre autres. Donc, une ministérialité qui n'est pas que masculine, telle que nous l'avons vu pour le diaconat, le presbytérat et l'épiscopat. Donc, cette reconnaissance qui advient par une institution est extrêmement importante. Est-ce que, par rapport à ce que je viens de dire, il y aurait des questions ou des réactions? Il y avait Anne et puis Béatrice, ou Béatrice et Anne, comme vous voulez. Oui, Béatrice, vous êtes en train de parler.
Finalement, quel est le contenu de ces tâches? La colita, vous avez parlé de donner la communion, c'est aussi les enfants de cœur. Enfin, quel est le contenu?
Alors, oui,
et puis, pareil pour le lectorat,
c'est
lire les textes à la main, derrière.
Mais je pense qu'on pourrait élargir cela. On pourrait penser qu'il y a des activités ou des services qui se font autour de la parole de Dieu. Bien sûr, la première tâche, quand on dit lectorat, c'est la lecture de la parole de Dieu. Donc, la lecture, la proclamation de la parole de Dieu au cours de la liturgie. Mais on peut penser, on pourrait l'élargir peut-être à des groupes de méditation de la parole de Dieu. Vous voyez, on pourrait penser qu'il y ait des activités annexes ou connexes au fait de proclamer la lecture au cours de la liturgie. Et l'acolyta, justement, il ne se limite pas à la distribution de la communion, mais peut-être, effectivement, être ministre à l'autel, au service du presbytre, du diacre, s'il y a un diacre, de manière à élargir la ministérialité que parfois se concentre trop autour du prêtre. Voilà. J'y reviendrai sur cette question-là. Là aussi, vous me direz, il y a toujours eu comme vous disiez, des enfants de cœur. Mais vous savez que l'attitude l'évolution de cela, notamment en France, est assez crispée. Souvent, on peut voir dans certaines paroisses le fait de chasser les filles du service de l'hôtel et on les envoie plutôt vers la porte de l'église. On leur enlève l'aube, on leur donne une chape. Ils quittent la burette, ils doivent distribuer des feuilles pour les champs. Donc, vous voyez quand même, il y a encore dans l'imaginaire de nos paroisses, de nos prêtres, mais pas qu'il n'y a pas que les prêtres, il y a des laïcs, voir une fille, j'imagine que c'est encore plus difficile de voir une femme qui exerce ce ministère, peut-être c'est pas encore si évident que ça. Alors, naturellement, le pape, je voudrais faire remarquer ça, c'est un pape sud-américain. Et en Argentine, c'est normal que cela advienne. Au Brésil, cela est tout à fait normal aussi, que des laïcs, notamment les femmes, puissent exercer des ministères. Même parfois, au Brésil, j'ai appris par un étudiant jésuite, ça peut être, je ne dis pas normal, mais ça peut se faire que ce soit des laïcs qui baptisent. Voyez. Il y avait Anne aussi qui voulait encore, ou c'était encore la main levée d'auparavant?
Oui, c'était la même question que celle de Béatrice.
Oui.
Mais je voulais savoir aussi l'acte liturgique de l'évêque, en quoi consiste-t-il? Parce que, voilà.
Mais généralement, si vous voulez, si je pense à la manière dont le séminariste, ceux qui accèdent au sacerdoce sont institués lecteurs ou acolytes, c'est dans le cadre d'une liturgie publique, c'est par la lecture de la parole de Dieu. Il y a une parole de l'évêque qui institue, alors moi, par ma charge, je te demande ou je vous demande d'exercer ce ministère de lecteur ou d'acolyte. Et il y a, comme l'ordre, on donne à la personne ce qui constitue le propre de ses services, de ce ministère. Par exemple, le lectionnaire, si on est lecteur, ou le calice, ou vous voyez, la patène pour... ou les burettes plutôt, voilà, pour ceux qui sont les l'acolyta, vous voyez. Donc du coup, il y a là des gestes, mais qui ne sont, vous avez bien compris, c'est pas une imposition des mains, c'est pas un ordre, c'est pas une ordination, mais c'est une institution.
Merci.
Alors naturellement, votre question en cache une autre, hein. C'est-à-dire, ça me permet de vous dévoiler une autre question qui est là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait après un motu proprio? Qui s'occupe de ça? Et vous voyez bien que le pape dit dans sa lettre, je ne l'avais pas souligné, mais il reviendra aux conférences épiscopales d'établir des critères adéquats pour le discernement de la préparation des candidats et des candidates, voilà, qu'ils estimeront destitués, selon ce qui est prévu déjà dans l'autre motu proprio. Alors voilà, ça s'ouvre dans le ministère aquedam, parce que j'ai touché le ministère aquedam dans le document. Et puis voilà, la congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements pourvoira à la mise en œuvre de cette réforme avec la modification de l'édition typique du pontificat romain, c'est-à-dire de l'institution du lecteur et des acolytes. Il y a déjà un rituel pour l'institution des acolytes et des lecteurs. Donc, le pape dit qu'il faudra modifier ce rituel pour qu'on puisse l'utiliser pour instituer des hommes et des femmes laïques. Voilà. Donc, si vous voulez, le pape, une fois qu'il a décidé cela, proposé cela, renvoie aux responsabilités à la fois des conférences épiscopales et de la congrégation pour le culte divin de faire évoluer cela. Et donc, c'est peut-être c'est cela que l'on constate aujourd'hui. Au moins, ici en France, on n'en parle pas trop, en vérité. C'est-à-dire, je n'ai pas l'impression que la conférence épiscopale française s'est appropriée de ce motu proprio. Donc, on est loin peut-être encore de le penser de manière concrète. Avec ce motu proprio, le pape devait être un peu déchaîné cette année-là, parce qu'avec le motu proprio sur l'acolita et le lectorat, il a publié cette autre lettre dans laquelle il demande d'instituer des catéchistes. Vous voyez, vous comprenez bien, c'est différent que lecteur ou acolyte. La fonction de catéchiste devient, dans l'idée du pape, un ministère. Vous voyez? Là aussi, c'est le même cas de figure. Ça a toujours existé des catéchistes, notamment femmes, toutes des générations de femmes qui ont fait le catéchisme. Mais là, le pape veut dire, il faut plus le tenir dans l'ombre. Il faut le mettre en valeur comme étant un ministère. Et donc, il revient au motu proprio du ministère Aquedam. Voilà. La publication du rite de l'institution des catéchismes sur la base de la legem credendi, lex statua supplicant, la relation entre la loi de la foi et la loi de la liturgie, de la célébration. Eh bien, dit, offre une nouvelle opportunité de réflexion sur la théologie des ministères. Et donc, il dit bien, le ministère de catéchiste est un service stable rendu à l'église locale selon les besoins pastoraux identifiés par l'ordinaire du lieu. L'ordinaire du lieu est l'évêque du lieu, mais exercé de manière laïque comme l'exige la nature même du ministère. Celui-ci est temple et différencié. Et puis, numéro 2, il convient de souligner qu'il s'agit d'un ministère laïque, fondé sur la condition baptismale commune et royale reçue du sacrement du baptême. On a déjà entendu ça. La stabilité du ministère de catéchiste est analogue à celle des autres ministères institués, c'est-à-dire acolyta et lectorat. Et puis, voilà, les catéchistes, en vertu de leur baptême, sont appelés à être co-responsables dans l'église locale pour l'annonce, la transmission de la foi, exerçant ce rôle en collaboration avec les ministres ordonnés et sous leur direction. Voilà, s'exprime sous des formes multiples, deux grands types de manières d'être catéchiste. Certains ont la tâche spécifique de la catéchèse, d'autres la tâche plus large de participer aux différentes formes d'apostolat. Voilà, ce ministère a une forte valeur vocationnelle qui requiert un discernement de la part de l'évêque. Je termine, et puis je vous donne la parole, Anne. Et donc, il continue. Voilà, le texte souligne, il ne semble pas opportun d'instituer tout le monde comme catéchiste. Comme on l'a déjà dit, ce ministère a une forte valeur vocationnelle qui requiert un discernement de la part de l'évêque. Et puis, ce ne sont pas tous ceux qui préparent les enfants et les jeunes et les adultes à l'initiation qui doivent être institués catéchistes. Le discernement de l'évêque peut appeler certains d'entre eux, pas tous, selon leurs capacités, les besoins pastoraux au ministère, soit de lecteurs, soit de catéchistes. Et puis, ils sont choisis parmi ceux qui accomplissent plus spécifiquement le service de l'annonce. Ils sont appelés à collaborer avec les ministères ordonnés. Et puis, voilà, à nouveau, on insiste sur le discernement de l'évêque. Et puis, vous voyez, regardez, pour la célébration, c'est-à-dire comment advient l'institution de catéchiste. C'est le numéro 16 qui le dit. Ça répond un peu indirectement à la question que vous posiez, Anne, sur l'institution d'acolyte et de lecteur. Le ministère de catéchiste est conféré par l'évêque diocésain ou par un prêtre délégué par lui, selon le rite liturgique des institutions, de l'institution des catéchistes promulguée par le siège apostolique. Le ministère peut être conféré pendant la messe ou lors d'une célébration de la parole de Dieu. La structure du rite prévoit, après la liturgie de la parole, une exhortation, une invitation à la prière, un texte de bénédiction, la remise du crucifix. Donc, vous voyez. Alors, Anne, je vous laisse la parole.
D'abord, il y a marqué un peu plus haut que
oui.
Ceux qui préparent les enfants à ceci ou cela, ils ne sont pas forcément catéchistes. Bon, moi je veux bien, mais pourquoi
Non, je ne pense pas. Voilà, ceux qui ont il ne semble pas pourtant tout le monde comme catéchiste. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas catéchistes. Tous exercent une fonction, mais l'institution, vous voyez, est réservée. Pas tous, peut-être, on le désire, ont la capacité de recevoir cette institution. Voilà. Donc, je pense que le texte veut dire tout simplement cela. Et il dit bien, ce ministère a une forte valeur vocationnelle qui requiert un discernement de la part de l'évêque. Donc, du coup. Vous savez, même lecteur et acolyte, peut-être pas tout le monde a envie de... Ça arrive, hein, j'ai vu dimanche dernier, quelqu'un a demandé à une personne de faire la quête, et dit non, je ne veux pas du tout. Donc, du coup, vous voyez ça, pas tout le monde a envie d'exercer un ministère de manière publique, je dirais. Hein. Ça veut pas dire qu'il soit moins ou plus que l'autre. Voilà.
Et puis, il y a quelque chose qui me... Je ne sais pas. La stabilité, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de...
Mais ça veut dire qu'il est institué pour la vie. Il n'est pas institué pendant 3 ans ou 4 ans ou une saison. Mais quand il sera institué, il restera catéchiste toute sa vie.
Oui, donc il vaut mieux pas être institué.
Mais ça, vous voyez, vous n'avez pas la vocation pour être institué catéchiste.
Mais pour être catéchiste, oui, mais pas pour être institué. Bon,
ben. Ben voilà, donc ben vous voyez, c'est bien ce que veut dire le texte. Hein? Alors, cela, ça nous paraît un peu étrange, mais si vous allez dans des pays comme l'Afrique ou l'Amérique du Sud encore, vous savez, il y a des catéchistes, ce sont des quasi-chefs de communauté, hein. Donc, il y a là cette vision-là, c'est-à-dire il y a la vision d'ouvrir aux laïcs des ministères, je ne dis pas qui remplacent le ministère du presbytère, mais qui peuvent contribuer à élargir ce ministère, à le rendre plus, à le rendre possible. Vous savez, nous le savons tous, hein, aujourd'hui les prêtres sont extrêmement sollicités. Les prêtres sont sollicités et souvent craquent, mais je pense que élargir la ministérialité de ce type-là peut rendre, comment dire, soulager les prêtres et surtout élargir la vision que nous avons des ministères, ne pas la concentrer sur le ministère ordonné. C'est ça que veut dire ces deux motu proprio. Hein. Mais donc, nous avons compris, Anne, hein, on ne le dira pas à l'évêque, hein. À votre évêque. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions à ce niveau-là? Voilà, donc, je voulais juste... Oui, Béatrice.
Oui, C'était juste en France, il y a des catéchistes qui ont été institués de cette manière et qui
Pas
participent à la.
encore que je sache. On a, l'Église catholique, justement, a publié un rituel. Là, ça, c'est sûr, on l'a même édité. Donc, il y a un texte latin. Mais en France, on n'a pas encore traduit ce rituel. Vous savez, toujours dans le jeu du latin qui va être adapté ou traduit. Que je sache, il n'a pas encore été traduit en français. Et donc, il n'y a pas encore, on n'a pas eu encore d'institution des catéchistes. Et surtout, vous voyez à nouveau, le pape joue toujours le même jeu. Jamais il dit « je vais imposer ça ». Il demande aux évêques de prendre leurs responsabilités pour faire ça. Vous voyez, il demande aux églises locales. Et il a raison. Peut-être que comme Anne le montre, hein, peut-être que pas dans tous les diocèses, on a envie d'instituer des catéchistes. Chose qui me semble un peu grave, parce que j'insiste, ce n'est pas qu'une question de vouloir, ne pas vouloir, c'est que ça donne une autre vision de l'Église et de la ministérialité de l'Église, surtout l'ouverture aux femmes. Voilà. Alors, pour terminer cet excursus sur l'évolution des ministères, sachez que dans au même moment où ces textes sortaient, et même un peu avant, le pape a réinstitué, pas des catéchistes ou des acolytes, mais il a reconstitué plutôt, voilà, il a à nouveau reconstitué une commission pour réfléchir sur la possibilité de ordonner des femmes au diaconat. Hein? Donc, du coup, il y a aussi actuellement dans l'Église catholique une réflexion menée par une commission, hein, ça ne veut rien dire. Je ne sais pas où elle aboutira, en sachant que la première mouture de la commission a sauté. Donc, ça veut dire que ce n'est pas si évident que ça. Il y a une théologienne française qui fait partie de la commission. Voilà. Je vais fermer ces deux aspects et on va donc ouvrir à... Je vais fermer ça. Voilà, au sacrement du mariage. Je cherche juste mes notes pour l'avoir sous les yeux. Et puis, on va commencer cela. Donc, le mariage, à nouveau, on va traiter cela de manière en deux moments. Tout d'abord, son évolution dans l'histoire, et puis on va rentrer dans le rituel lui-même, et nous verrons, c'est une bande d'annonces et une annonce de ce que je vais faire, qu'on va faire, on verra que probablement la manière dont le rituel propose la célébration du mariage, en quelque sorte, fait évoluer la manière de concevoir ce sacrement-là. Et je vous le montrerai justement quand nous arriverons au rituel lui-même. Voilà. Alors, je commencerai par une expression que j'ai mis entre guillemets et qui reprend l'expression d'un grand théologien français qui s'appelle Louis-Marie Chauvet. Nous en avons, je l'ai, comment dire, j'ai fait référence à lui assez souvent. Là où Louis-Marie Chauvet, justement, a dit dans un de ses articles que le sacrement du mariage est un sacrement pas comme les autres. Pas comme les autres. En quel sens il entend que le sacrement du mariage n'est pas un sacrement comme les autres? Effectivement, c'est de cette manière qu'il nous invite à le penser comme un sacrement pas comme les autres. Parce que, alors que la plupart des sacrements proviennent de l'action de Jésus lui-même, pensons au baptême, pensons à l'Eucharistie, hein, eh bien, le mariage, lui, il existait bien avant lui, depuis bien longtemps. Le mariage fait partie des pratiques qu'on pourrait dire ça, de toute société, le lien entre un homme et une femme existait bien avant les chrétiens. Donc, voilà. Et puis, à la différence des sacrements de l'initiation chrétienne, donc à la différence du baptême, de la confirmation ou de l'Eucharistie, eh bien, le mariage n'est pas constitutif de l'identité chrétienne, n'est pas constitutif. L'expression constitutif est assez importante. Comme par exemple, n'est pas constitutif de l'identité chrétienne la profession religieuse. Aussi le mariage. Et on pourrait dire que par contre, le mariage particularise la grâce reçue au moment du baptême. Et puis, un autre aspect qui le distingue des autres sacrements, c'est que le mariage est ancré davantage dans des mœurs familiales, dans des coutumes locales, c'est-à-dire plus que les autres sacrements, dans des coutumes locales, dans des traditions familiales. Et à cause de cela, le sacrement du mariage a pu effectivement connaître une évolution assez importante et a connu des diversités assez importantes tout au long de l'histoire. L'autre aspect, c'est aussi que, à la différence d'autres sacrements, le mariage joint, tient ensemble, si je peux dire, des dimensions apparemment contradictoires. Alors, par exemple, il tient ensemble le plus intime, mais aussi le plus social. Il tient ensemble le plus charnel et le plus spirituel. Et donc, on pourrait dire que, un peu comme d'autres sacrements que nous avons vus, comme la réconciliation, le sacrement du mariage, en vérité, émerge tardivement dans l'histoire de l'Église. Il est retenu comme un sacrement simplement au Moyen Âge. Cela ne veut pas dire que les chrétiens ne se mariaient pas, mais ce geste-là n'était pas retenu comme un sacrement jusqu'au Moyen Âge. Ça y est, on verra de quelle manière cela s'est fait, entre autres. Quand on regarde aussi les caractéristiques propres, c'est que par rapport à d'autres sacrements, le mariage peut-être est celui qui... Une de ses caractéristiques, si vous voulez, c'est qu'il peut être particularisé en fonction des deux personnes qui se marient. Par là, je veux dire que les deux fiancés, par exemple, qui décident de se marier, assez souvent peuvent participer directement à la préparation de la célébration du mariage, par le choix des lectures, par le choix de certains gestes, par le choix de chants liturgiques ou non liturgiques, de lectures autres que la lecture de la parole de Dieu, vous voyez. Donc il y a là une sorte de participation à la célébration et à la construction de la célébration que d'autres sacrements n'ont pas. Que d'autres sacrements n'ont pas. Quand on regarde son évolution au cours de l'histoire, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Tout d'abord, pour voir un peu ce type d'évolution, on peut constater d'abord l'époque néo-testamentaire, puis voir en gros ce qui s'est passé au premier millénaire, et prendre en compte un tournant, le XIe siècle, qui est assez important à ce niveau-là. Donc, tout d'abord, à l'époque néo-testamentaire. Et en effet, on peut remarquer que les évangiles, notamment, là, je vous ai mis une référence, Marc 10, 1 à 12, mais vous pouvez aussi voir les autres parallèles de cet évangile, attestent que la parole de Jésus à propos du mariage a fortement étonné les disciples. Et aussi, la manière dont Paul développe sa réflexion autour du mariage va étonner, va quelque part modifier, va fournir une réflexion ultérieure à ce qu'est le mariage des chrétiens. Et en effet, dans cette ambiance-là, on peut constater que les premiers chrétiens ont été plutôt préoccupés de la manière de vivre leur mariage de manière chrétienne. D'où l'expression de Paul, vivre le mariage ou être marié dans le Seigneur. L'expression vient de saint Paul. Donc le mariage existait, les chrétiens participaient à la vie civile, peut-être la vie juive quand ils étaient juifs ou civile quand ils étaient païens, donc pas juifs, eh bien, ils pouvaient se marier et ceux qui adhéraient au christianisme vivaient leur propre mariage qui était coutumier, familial, dans cette optique d'une consonance avec l'Évangile, d'où l'expression « le mariage dans le Seigneur ». Au cours du premier siècle, on peut constater que effectivement le mariage se célèbre essentiellement selon les coutumes juives ou les coutumes gréco-romaines. Voilà. Qu'on soit chrétien ou non, c'est le même, ce sont les mêmes pratiques. Et dans ces pratiques, il faut le souligner, l'aspect familial est prédominant. L'aspect familial est prédominant. Et ce n'est que peu à peu, effectivement, que l'on voit se développer des rites chrétiens, comme par exemple la bénédiction des époux, ou encore la bénédiction de la chambre nuptiale, ou encore le couronnement, c'est-à-dire le fait de poser des couronnes tressées ou fleuries sur la tête des époux, cela notamment en Orient. Je vous fais remarquer que ce geste de poser des couronnes sur la tête des époux est encore en usage aujourd'hui dans les églises byzantines, donc dans les églises orthodoxes de tradition byzantine. Alors, avant de passer au tournant qui est assez important, je vous propose de faire une pause et puis on recommencera avec le 11e siècle et voir qu'est-ce qui va changer par rapport à cette ambiance qui réserve le mariage à des coutumes familiales ou culturelles en tant que telles. Donc, je vous propose de nous arrêter là pour le moment, et puis nous allons recommencer vers 21h08. 21h08, en gros, hein, je ne serai pas… Voilà, à tout à l'heure. Voilà, nous pouvons reprendre le cours. Je sonne la cloche. Alors, nous étions. Je partage à nouveau l'écran. Voilà, nous en étions arrivés au tournant du 11e siècle. Pourquoi on s'est arrêté un instant là? Parce que le 11e siècle constitue un tournant assez important, voilà, dans la mesure où, vers le 11e siècle, effectivement, se développe en Occident le souci de lutter contre les abus dans les façons de se marier. Donc, je le répète, le mariage est un mariage coutumier, lié à la famille, et notamment on veut lutter contre les mariages dits clandestins. C'est des mariages qui qui n'étaient pas rendus publics, et qui laissaient assez souvent, effectivement, la femme à l'abandon. C'est-à-dire, il pouvait arriver que c'était la plupart du temps de la part de l'homme de quitter sa femme en mariant une autre femme ou en se liant à une autre femme, et que puisque le mariage, la première relation n'avait pas été rendue publique, eh bien effectivement, cela conduisait à l'abandon de la femme. Et c'est contre ces mariages clandestins qu'on veut effectivement lutter. Et l'Église va prendre en charge la conclusion du mariage. Va prendre en charge la conclusion du mariage. Et elle la place, cette conclusion, avant la messe de mariage. Et la célébration va commencer effectivement par et se situe devant la porte de l'Église, devant la porte de l'Église. Alors on appelle cela en latin, je vais essayer de vous le montrer, on appelle cela in facie ecclesiae, en face de l'Église, devant l'Église, devant l'Église. Alors là, vous devez vraiment penser, l'expression est double, parce que elle est d'abord concrète et géographique, c'est-à-dire que les deux mariés devaient aller devant, physiquement, devant la porte de l'Église et rendre public leur union, et par la suite rentrer dans l'Église et participer à la messe de mariage. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette pratique va se développer et va effectivement rendre plutôt public toute relation entre un homme et une femme à cette époque-là. Et la pratique, cette pratique qui commence à se mettre en œuvre au XIe siècle, va perdurer effectivement jusqu'au Concile de Trente. Là, vous vous rappelez, le Concile qui, on pourrait dire, est célébré pour contrer la réforme protestante, Et donc, dans ce concile-là, on stipule justement que désormais, le mariage des baptisés doit être célébré, je cite, « selon la forme canonique ». C'est l'expression qu'on emploie à l'issue du concile. En quoi consiste cette forme canonique? C'est-à-dire, elle signifie que le mariage doit être célébré en présence du curé, sur le territoire de la paroisse où le mariage est célébré, en présence du curé et en présence de deux autres témoins. Vous voyez, donc du coup, les difficultés qu'on pouvait avoir auparavant de cette dimension publique du mariage va être désormais réglée, si je peux dire, et structurée par cette vision du mariage devant le curé et devant la présence de deux témoins. Il faut penser aussi que, ne l'oublions pas, que c'est au Concile de Trente qu'on va retenir la liste des sept sacrements dont fait partie le mariage. Et donc, on peut vraiment avancer que c'est la pratique mise en œuvre déjà au XIe siècle du mariage in facie ecclesiae devant l'Église qui va conduire à retenir le mariage comme un sacrement et donc qui va faire partie de la liste des sacrements. Nous avons par la suite les évolutions que nous connaissons au XXe siècle. Au cours du XXe siècle, on voit se modifier considérablement les modalités du mariage. Le nombre des mariages va baisser, celui des divorces va augmenter, la cohabitation apparaît, ainsi que la compréhension de nouvelles formes de mariage, de nouvelles formes de liens. Et donc, l'évolution est allée dans le sens d'une influence beaucoup moins grande des aspects sociaux et institutionnels du mariage au profit d'une perception plutôt interpersonnelle. Et donc, c'est l'aboutissement, si on peut dire, d'une tendance qui était née déjà au XVIIIe siècle et qui liait mariage, amour, bonheur. Voilà. Et donc, aujourd'hui, effectivement, ce sont plutôt les époux qui sont au centre du mariage et non plus les familles, comme on l'a vu au premier millénaire ou encore au Moyen-Âge, c'est le couple qui est au centre de la préoccupation ou de l'expérience de la vie matrimoniale, si on peut dire. Voilà. Et cela tient aussi à l'évolution de la femme en Occident. Il faut penser aussi à la perception qu'on a de la femme, l'acquisition d'une plus grande maîtrise aussi de la sexualité, d'une autre perception de la sexualité dans le mariage. Et donc, cela a provoqué dans l'Église une préoccupation, on dirait, plus forte, plus importante vis-à-vis des fiancés. Elle s'est manifestée surtout au moment des rencontres du mariage. Nous irons voir de plus près les notes de doctrine apostolale qui vont souligner cette importance de la préparation au mariage. Et donc, effectivement, cela conduit à une volonté, notamment au moment du Concile, de réformer le rituel du mariage et donc de le rendre plus apte à répondre à ces nouvelles situations dans la société et dans l'Église. Les étapes, désormais, vous savez lire ces dates, on a pour le mariage, ça n'arrive pas souvent pour les rituels, mais pour le mariage, on a eu déjà deux éditions du rituel du mariage. La première édition, donc 69, c'était la promulgation du rituel du mariage en langue latine, Et en 70, l'adaptation et la traduction à langue française. Vous voyez, donc là, du coup, il y a très peu de temps, une année seulement, entre l'édition qu'on appelle typique et l'adaptation française. La deuxième édition a comme date le 1990 pour l'édition latine et 2005 pour l'adaptation française. Si vous voulez, je vous propose maintenant d'aller voir ensemble ce qu'en disent justement les notes doctrinales et pastorales qui ont été distribuées. Donc là, vous avez peut-être pu déjà regarder, on a là le titre du rituel romain de la célébration du mariage. On a à nouveau, vous voyez qu'il fait bien, il fait référence au texte latin promulgué en 90. Et là donc, le travail de toutes les conférences épiscopales francophones va être reconnu le 8 janvier 2005. Donc voilà, on a là toutes sortes de décrets pour la France. Voilà, les préliminaires, donc d'abord, donnent une vision des fondements du mariage et ils pensent ces fondements tout d'abord les numéros 1 à 4 du point de vue de l'Ancien Testament et puis les numéros 5 à 11 du côté du Nouveau Testament. Et donc effectivement on ancre, je vous disais, le mariage vient bien avant le christianisme, et on va affirmer ceci au numéro 1, qui me semble assez significatif. L'alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie tire sa force, sa vigueur de la création, mais pour les fidèles du Christ, elle est également élevée à une unité plus haute puisqu'elle est comptée parmi les sacrements de la nouvelle alliance. Là, nous avons un vocabulaire tout à fait d'une théologie sacramentaire qui remonte au Moyen Âge, hein, donc l'idée des sacrements de l'ancienne alliance, de la nouvelle alliance. Donc il y a des fondements, ils disent, dans la création, mais cela a été, comme nous le verrons par la suite, reçu une nouvelle dignité par le sacrement de la nouvelle alliance. Et puis on souligne que le mariage est instauré par l'alliance conjugale, c'est-à-dire le consentement irrévocable des deux époux par lequel librement ils se donnent et se reçoivent mutuellement. Donc il y a l'idée de alliance, vous voyez bien l'expression est assez importante. Et puis par contre, pour la nouvelle alliance, du côté du Nouveau Testament, on souligne le fait que le Christ lui-même a renouvelé toutes choses et a voulu que le mariage retrouve sa forme, sa sainteté originelle, en sorte que l'homme ne se sépare pas de ce que Dieu a uni. Et là, la note 8 renvoie effectivement à Matthieu que j'avais évoqué, Matthieu 19, 6. Et puis au numéro 6, par la présence du Christ, le Christ a apporté bénédiction et joie aux noces de Cana, en changeant l'eau en vin, préfigurant ainsi l'heure de l'alliance nouvelle et éternelle. Et puis, on souligne le fait que par le baptême, qui est le sacrement de la foi, l'homme et la femme sont insérés une fois pour toutes dans l'alliance du Christ avec l'Église, de sorte que leur communauté conjugale est assumée dans l'amour du Christ est enrichi de la force de son sacrifice. Donc, il y a l'idée que l'homme et la femme qui célèbrent leur mariage sont insérés dans la communauté plus large de l'Église et donc au cœur même de l'alliance du Christ et de son Église. Et puis le numéro 9 me semble aussi significatif. Par ce sacrement, l'Esprit Saint fait que les époux chrétiens, à la manière du Christ qui aimait l'Église et s'est livré lui-même pour elle, soient égaux en dignité, s'efforcent d'entretenir et de soutenir leur union par un don mutuel d'eux-mêmes. Donc l'idée du don réciproque qui advient par le mariage. Puis quand on passe du côté de la prise en compte des ministères, ce sont les numéros 1 à 27, plutôt 12 à 27, qui vont traiter des offices et des ministères. Justement, on dit la préparation, la célébration du mariage regarde en premier lieu les futurs époux eux-mêmes et leur famille. Donc, préparation et célébration ont comme sujets principaux les époux et les familles. Et donc, elles concernent aussi l'évêque, le curé, ses vicaires, le diacre. Donc, ils sont tous possibles, potentiellement ministres du mariage, de la célébration du mariage. Et donc, on souligne dans plusieurs numéros l'importance d'une pastorale du mariage. Vous voyez, donc, voilà, il appartient à l'évêque de régler dans tout son diocèse la célébration, la pastorale du sacrement, en organisant le soutien des fidèles pour que l'état de mariage soit gardé dans l'esprit chrétien et progresse dans la perfection. Et puis donc, voilà comment ce soutien advient. On souligne la prédication et la catéchèse, la préparation personnelle au mariage, voilà. Et puis, la célébration fructueuse de la célébration de la liturgie du mariage. Et puis, l'aide qui est apportée aux époux. Donc, à nouveau, donc, l'importance de la préparation au mariage. Et puis, on va donc souligner dans les numéros suivants la célébration du mariage que je voudrais justement regarder avec vous et vous montrer l'importance d'un élément peut-être dont on n'est pas au courant et qui donne dans la deuxième édition du rituel, qui permet de faire évoluer la manière dont on peut concevoir la théologie du mariage et notamment la ministérialité. Mais avant de passer à la description de la célébration, je voudrais un peu vous dire rapidement quelles sont les nouveautés que le nouveau rituel a apportées à la célébration du mariage. Tout d'abord, on peut souligner que le nouveau rituel place normalement, à la différence du rituel qui était en usage jusqu'au concile, place normalement, je dis bien normalement parce que nous verrons que pour des raisons pastorales, on ne peut pas proposer à tout le monde le même type de célébration, mais donc il place le mariage, la célébration du mariage, au sein même de la célébration de l'Eucharistie. Au sein même de la célébration de l'Eucharistie. On a là vraiment la perception d'une volonté d'ancrer la théologie du mariage dans une vision de l'alliance. L'Eucharistie est par excellence l'alliance que le Christ établit par son sang. C'est cela que nous disons dans l'Eucharistie. Et donc, la communion qu'il offre à ceux qui participent à l'Eucharistie, eh bien, le mariage est inséré au cœur même de l'Eucharistie. Nous le verrons par la suite, c'est la colonne là, de gauche qui le montre, c'est celle-ci, hein, donc au cours de la messe. Et donc, la célébration du mariage, ou la vision de la théologie du mariage, passe d'une dimension plutôt juridique, axé sur le contrat, sur l'échange des consentements, mais en tant que contrat, a un accent plutôt théologique. En plus, on peut constater que les textes des prières que l'on retrouve dans le rituel sont pour deux tiers des textes nouveaux. C'est, on a composé des textes. On ne les a pas cherchés dans les anciens livres liturgiques qui remontent parfois au Moyen-Âge, mais on a voulu créer des textes nouveaux. Cela dit aussi la volonté de s'adapter à l'évolution des temps, à l'évolution du temps. Et même quand on a fait le choix de garder certains textes qui remontent au Moyen-Âge, au Concile de Trente, on a adapté ces textes à justement à la situation actuelle. Et donc, les textes de rituel actuel mettent plutôt en valeur la richesse du mariage. Il faut dire que jusqu'au Concile, la théologie qu'on avait, qui portait la célébration du mariage, était une théologie assez négative. Il considérait le mariage, vous savez que on considérait le mariage comme remède de la concupiscence, hein, et donc comme la possibilité de donner la possibilité de ne pas avoir trop de passion. Voilà. Donc du coup, on avait une vision un peu négative du mariage, pas positive. Eh bien, le rituel, les textes du rituel actuel ont réussi, à mon avis, à laisser derrière lui, toute cette vision négative du mariage. Quand on regarde, par contre, le lectionnaire, c'était le livre des lectures que l'on fait pour le mariage, on peut voir aussi que ce lectionnaire, c'est le nom qu'on donne au rituel qui porte les lectures, qui contient les lectures, eh bien, le lectionnaire comporte un choix très large de lectures, très large de lectures, et ces lectures traitent des thèmes assez variés, hein, et ils situent le mariage dans le contexte plus large de la vie chrétienne, ou encore dans l'histoire du salut. Donc, il souligne davantage la valeur sacramentelle du mariage. Et justement, donc, après avoir montré que ces nouveautés qui me semblent très importantes, on peut regarder comment est structurée la célébration. Je vous disais tout à l'heure, on a deux formes pour la célébration du mariage, ou bien on le célèbre au cours de la messe, comme je viens de dire, ou bien en dehors de la messe. Vous comprenez que le choix est assez important. On peut penser qu'au cours de la messe, bien qu'étant la forme la plus théologiquement accomplie, telle que nous l'avons vu, telle que je vous l'ai dit tout à l'heure, la célébration du mariage en dehors de la messe, par contre, permet une célébration qui, comment on peut dire ça, qui laisse libre les mariés qui ne seraient pas vraiment des pratiquants de la liturgie, de vivre la célébration sans être trop, encombrés ou liés par une célébration de l'Eucharistie qu'ils ne comprendraient pas. Ouais. Donc, il y a là un choix à faire au moment où on prépare les fiancés. Si la messe peut être importante ou bien s'il faut carrément célébrer le mariage en dehors de la messe. Mais que cela soit célébré au cours de la messe ou en dehors de la messe, vous verrez, on le verra ensemble, que certains éléments sont identiques pour l'une ou l'autre forme. Pour la célébration du mariage au cours de la messe, nous retrouvons là la structure de la célébration de l'Eucharistie, le rite d'ouverture, la liturgie de la parole, la célébration du mariage, la liturgie eucharistique et la conclusion de la célébration. Alors, je vous fais remarquer une fois de plus l'importance qu'on le célèbre au cours de la messe ou qu'on le célèbre en dehors de la messe, l'importance du lien entre la liturgie de la parole et la célébration du mariage. Donc, entre la parole et le sacrement. Donc, ces deux moments sont extrêmement importants. Vous voyez qu'on le retrouve aussi dans la célébration en dehors de la messe. Et donc, on a à nouveau cette perception que c'est après avoir écouté la parole de Dieu que le sacrement peut être célébré, que le sacrement peut être célébré. Je vous rappelle une fois de plus l'expression qui vient à nouveau de Louis-Marie Chauvet, le sacramentologue français, qui dit « Le sacrement est un précipité de la parole. » Le sacrement est un précipité de la parole. Il manifeste autrement la parole. Et donc, effectivement, c'est après la liturgie de la parole qu'advient la célébration du sacrement de mariage en tant que tel. Et la célébration commence par la profession de foi, c'est-à-dire par la récitation du credo. Naturellement, vous êtes désormais habitué, j'espère. Dès que je dis profession de foi ou credo, je pense à quoi ? Au baptême. Le baptême, c'est le symbole de foi que j'ai prononcé moi-même quand je suis baptisé ou qu'on a prononcé sur moi si j'étais bébé. Mais le fait qu'on le situe là, la récitation de la profession de foi, montre bien qu'on veut commencer, qu'on veut situer le mariage à la suite des sacrements de l'initiation chrétienne. Donc du baptême, de la confirmation, de l'Eucharistie, notamment du baptême. Et donc, que le mariage n'est qu'une manière de rendre fructueuse la grâce reçue au moment du baptême. Après la profession de foi, a lieu le dialogue avec les futurs époux. Je vais essayer de vous lire en quoi consiste ce dialogue. Voilà, il y a plusieurs choix. Là, oui, une autre, peut-être je ne l'ai pas dit, mais le rituel permet, donc je suis en train de lire, d'ouvrir le rituel et de le lire devant vous, avec vous. Le rituel a plusieurs formules au choix. Donc le célébrant, celui qui préside le mariage, peut choisir l'une ou l'autre formule. Nous le verrons notamment pour une prière qui me semble extrêmement importante. Mais voilà comment une des formules peut se présenter. Alors, Paul et Béatrice, vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Vous allez vous engager l'un envers l'autre dans le mariage. Est-ce librement et sans contrainte? Et là, les époux répondent oui. En vous engageant dans la voie du mariage, vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie? Oui, pour toute notre vie. Et puis, êtes-vous disposé à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui. Donc, voyez, c'est un dialogue qui, naturellement, manifeste la liberté des époux et leur destinée au sein de l'Église. Et notamment, la dernière question, êtes-vous disposé à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Il y a une autre formule. Et puis donc, on a l'échange des consentements. Et donc, l'échange commence par une invitation de celui qui préside la célébration du mariage de cette manière, par exemple, puisque vous êtes décidé à vous engager dans le lien du mariage en présence de Dieu et de son Église, donnez-vous la main et échangez vos consentements. Puis vous connaissez généralement l'échange de consentement et la réception des consentements qui dit ceci, c'est le prêtre le ministre qui dit ceci, ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme et qui vous comble de sa bénédiction, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Il y a là à nouveau plusieurs formules de réception du consentement. Puis on a la bénédiction et la remise des alliances. Et puis on a la prière universelle. Voilà. Et c'est là qu'on commence la liturgie eucharistique. Donc l'apport des offrandes, la prière sur les offrandes, la prière eucharistique. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un élément fondamental qui est apparu avec la deuxième édition du rituel, celui de 90-2005. De 90, le rituel en latin, et 2005, l'adaptation française. Eh bien, nous avons là ce qu'on appelle une bénédiction nuptiale. Une bénédiction nuptiale. Alors, ceux qui se sont mariés avant 2005 ne l'ont pas connu. Ceux qui, parmi vous, sont mariés avant 2005 ne l'ont pas connu, en principe. Et c'est cette bénédiction nuptiale qui va donner, qui va faire évoluer la théologie du mariage, qui va faire évoluer la théologie du mariage, et que l'on retrouve comme un élément essentiel de la célébration du mariage, puisqu'on la retrouve aussi, vous le voyez bien là, dans la célébration du mariage en dehors de la messe. On va y revenir sur cette bénédiction nuptiale, mais avant je voudrais vous montrer la structure de la célébration en dehors de la messe, du mariage en dehors de la messe, et vous montrer tout simplement que, en gros, on retrouve la même structure, l'accueil des futurs époux, la salutation, la prière d'ouverture, et puis la liturgie de la parole, à nouveau, qui est extrêmement importante, même quand il n'y a pas l'Eucharistie. On retrouve à nouveau, vous pouvez avec un coup d'œil voir les parallèles, la profession de foi, le dialogue initial avec les futurs époux, l'échange des consentements avec ce que nous avons vu, la bénédiction des miséricordes et la bénédiction nuptiale. Alors, puisqu'il n'y a pas d'Eucharistie, à la prière universelle, après la prière universelle, on prie le Notre Père, donc, qui a un caractère eucharistique, même si on ne célèbre pas l'Eucharistie. Et donc, la bénédiction nuptiale, je vous disais, est assez importante. Je vous en ai donné un exemple. À nouveau, oui, je suis à la bénédiction nuptiale numéro 3, mais on pourrait lire aussi les autres, si nous le voulons. Donc, je voudrais vous montrer l'importance de cette bénédiction nuptiale. Alors, je vous fais remarquer, j'ouvre une parenthèse, que l'adaptation italienne donne la possibilité, par exemple, chaque conférence épiscopale adapte le rituel latin comme il semble mieux. Et l'adaptation italienne a inséré une pratique qui remonte à l'Antiquité, qui est celle de poser des couronnes fleuries sur la tête des époux pendant qu'on prononce cette bénédiction nuptiale, à la manière des orthodoxes, pour nous entendre. Voilà. Et donc, donne à cette bénédiction, et nous le verrons par le texte de la bénédiction, un caractère profondément épiclétique. Vous vous rappelez du terme épiclétique?
Donc, 1990, le rite du mariage.
Je vais le réécrire pour que vous le compreniez. Épiclétique, là où effectivement on retrouve les deux mots, épi, sur, invoqué sur, nous verrons de quelle manière. Et donc, vous voyez, le rituel dit, le prêtre ou le diacre, les mains jointes, invite l'assemblée, la prière, en ces termes ou en d'autres semblables. Maintenant, appelons sur ses époux la bénédiction de notre Dieu. Il leur a fait la grâce du sacrement, que lui-même la renouvelle sans cesse dans son amour. Et donc, il y a là une participation, on invite les fidèles à participer à cette bénédiction par la prière en silence. Tous prient quelques instants en silence. Et puis, regardez, le texte dit, « Puis le prêtre ou le diacre, étendant les mains au-dessus des époux, continue. » Donc, c'est vraiment ce geste-là. Hein. Donc, c'est une imposition des mains, on pourrait dire, n'est-ce pas ? Étendant les mains au-dessus des époux. Et je faisais remarquer aussi aujourd'hui, c'est le même geste que le presbytre ou l'évêque fait au moment de consacrer le pain et le vin de l'Eucharistie. Et donc, ce geste a une valeur justement consécratoire. Donc, il consacre les époux, hein, et la prière continue donc avec tout en tenant les mains étendues sur les époux en disant Père très saint, créateur du monde, c'est l'adresse que l'on fait à Dieu, hein, toi qui as fait l'homme et la femme à ton image, toi qui as voulu leur union et qui l'a béni, nous te prions humblement pour Paul et Jeanne, qui sont unis aujourd'hui par le sacrement du mariage, que la bénédiction descende en abondance sur eux, que la force de l'Esprit Saint les enflamme de ton amour, qu'ils trouvent le bonheur en se donnant l'un à l'autre, dans la joie qu'ils sachent te remercier, dans la tristesse qu'ils se tournent vers toi, que ta présence les aide dans leur travail, qu'ils te trouvent à leur côté dans l'épreuve pour alléger leur fardeau, qu'ils participent à la prière de ton Église, témoignent de toi dans le monde. Enfin, après avoir vécu longtemps heureux, qu'ils parviennent entourés de leurs amis dans le royaume des cieux, par Jésus le Christ notre Seigneur, et tous répondent Amen. Vous voyez bien que bon, la prière commence de la création, hein, englobe la vie des mariés à l'intérieur de l'histoire du salut, hein, donc parce que il demande pour les mariés quelque chose pour la vie, hein, et se termine au royaume des cieux, c'est-à-dire c'est toute l'histoire du salut qui est retracée à partir des époux, et on demande sur eux cette bénédiction de Dieu sur eux. Je vous fais remarquer les expressions. Que ta bénédiction descende en abondance, que la force de l'Esprit les enflamme de ton amour. Les théologiens des sacrements avancent que justement cette prière peut avoir une dimension épiclétique très forte et très importante. Ce qui déplace un peu la vision qu'on peut avoir du mariage. Je vous fais remarquer une chose. C'est que si je regarde la manière dont elle est là où elle est située cette prière, cette bénédiction, vous voyez bien qu'elle est située juste après la prière eucharistique. C'est-à-dire, on vient de consacrer le pain et le vin, et tout de suite après, on consacre l'époux et l'épouse. Donc, du coup, là, on l'a effectivement sans Eucharistie, mais à nouveau, ils se suivent. Hein, donc, du coup, avec notre Père qui l'englobe et qui évoque l'Eucharistie. Et donc, déjà là, la prière prend une dimension très importante du point de vue sacramentel. Ce qui fait que, là, à nouveau, on peut constater une évolution dans la manière de concevoir la théologie du mariage. La théologie du mariage. J'essaie de m'expliquer et puis vous me direz si j'arrive à me faire comprendre. Jusqu'à maintenant, si je vous posais la question qui est le ministre du mariage, qu'est-ce que vous répondriez? Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce que vous avez appris?
On a appris lorsqu'on s'est marié que c'était les époux qui...
Que c'était les époux, voilà. Que c'était les époux qui étaient le ministre du mariage. Eh bien, effectivement, jusqu'à à cette nouvelle, ce nouveau rituel, on pouvait dire clairement, il y a l'échange des consentements, il y a la bénédiction, la remise des alliances, et tout terminait là. Du coup, les époux étaient vraiment au centre. Et on avait comme l'impression que le ministre qui présidait la célébration était un peu comme extérieur, comme témoin plutôt, voilà, comme témoin de cet échange de consentement ou de cette remise des alliances. Désormais, en insérant la bénédiction nuptiale, cette vision, je dirais, qui laissait un peu seuls les époux dans ce ministère, et équilibrée ou élargie au ministère de l'Église elle-même. Vous voyez, donc là, le fait qu'un ministre, celui qui préside la célébration du mariage, prononce sur les mariés une bénédiction nuptiale dans laquelle eux, ils sont ceux qui la reçoivent, vous voyez, fait que le mariage, du coup, est moins un sacrement pas comme les autres, mais devient exactement un sacrement comme les autres. Parce que tous les sacrements, nous l'avons appris jusqu'à maintenant, signifient le fait que un geste, une parole, me communique la grâce venant de Dieu. Et la manière dont on concevait le mariage pouvait faire penser que c'était les époux qui se donnaient cette grâce. Alors que la bénédiction nuptiale souligne davantage que cette grâce vient de Dieu et dont le ministre est l'intermédiaire, celui qui fait le trait d'union entre Dieu et les époux, vous voyez. Donc, ce qui peut sembler une nouveauté pour la nouveauté, sachez que constitue une réflexion théologique profonde aujourd'hui. On a là désormais une évolution du mariage qui le rend moins perçu comme un contrat, mais plutôt comme une grâce que l'on reçoit. Et quand on dit une grâce que l'on reçoit, on peut penser aussi que cette grâce peut être refusée, ne pas être vécue ou mal vécue, que la grâce reçue pour l'union, l'alliance peut être rompue. Hein. Tout cela fait partie du sacrement lui-même et nous fait prendre conscience que probablement il faut reconsidérer ou considérer davantage le mariage comme étant justement ce geste qui est donné, sacramentel naturellement, qui est donné, mais qui vient de Dieu et qui donne la force aux époux de vivre leur mariage. Voilà. Je vais arrêter le partage d'écran et je vous laisse la parole. Est-ce que, d'abord, ma question, c'est moi qui vous pose une question, est-ce que vous étiez au courant de cette bénédiction nuptiale? Est-ce que vous aviez rencontré?
Non, on n'était pas au courant. Enfin, je n'étais pas au courant, ni mon mari.
Oui, mais parce que vous êtes mariée bien avant, j'imagine.
En 88, oui.
Oui, c'est ça. Donc, c'était le rituel avant le concile, avant 2005, disons, avant 1990, effectivement. Mais c'est une évolution. C'est important que j'espère de vous avoir fait comprendre que c'est bien l'Église catholique qui a voulu insérer cette bénédiction nuptiale, qui rééquilibre une vision qu'on pouvait avoir du mariage trop axée sur les mariés. Est-ce qu'il y aurait l'une ou l'autre question, l'une ou l'autre remarque que vous voudriez faire? Il n'y a pas de question principale. Je vous disais dans le plan du cours l'importance des évolutions à la fin du XXe siècle. Hein. Donc, on passe d'une influence sociale et d'une dimension interpersonnelle. C'est cela que je voudrais un peu débattre, un peu comme on a fait pour la question des ministères la prochaine fois, en commençant le cours, tout simplement. Et donc, à partir, vous l'avez reçu aussi, à partir de ce document de la mission de France, hein, les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation. Là où ce texte montre bien les déplacements que l'on peut avoir, qu'on a eu par rapport à la vision du mariage et aux formes nouvelles d'union, les pratiques nouvelles d'union qu'on peut retrouver aujourd'hui dans la société et dans l'Église. Hein. Donc, du coup, cela provoque d'autres manières. Cet après-midi, nous avons, entre autres, hein, vous savez que quand je dis changement dans la perception des unions et des relations, vous savez bien que, par exemple, on s'interroge de la manière d'accueillir la demande de la part de couples du même sexe d'une bénédiction, par exemple. Vous voyez, il y a des diocèses dans l'Église catholique qui ont fait ce choix-là de promulguer des rituels à ce niveau-là. Donc, ça, c'est un des aspects de l'évolution, notamment de la vision de la relation entre deux personnes. Et l'autre aspect, c'est notamment comment le mariage est célébré. La plupart du temps, désormais, on peut constater que les gens se marient bien tard. Autrefois, on se mariait en commençant une vie, si je peux dire, et on gardait la vie matrimoniale comme un témoignage chrétien durant toute la vie. Mais aujourd'hui, la plupart, comme le montre le document, la plupart des couples vivent une cohabitation même avant le mariage. Hein? Donc, assez souvent, le mariage, la célébration du mariage, devient comme l'aboutissement de cette expérience de vie assez longue. Vous voyez, ça change complètement. Est-ce que le mariage, c'est un sacrement des débuts ou c'est un sacrement qui achève une vie conjugale, voyez. Il y a les deux dimensions, alors il faut prendre en compte, et je ne parle pas de manière théorique, je parle de manière concrète dans les évolutions de la société aujourd'hui. Ce sont deux aspects, mais on pourrait en trouver d'autres. Mais l'autre aspect dont nous avons parlé longtemps cet après-midi, c'est la question de divorcer et marier. Qu'est-ce qu'on fait quand on vit un échec après s'être promis amour et vie conjugale, voilà. C'est une réalité qui est tout à fait omniprésente, qui est assez importante. Aujourd'hui, dans l'Église, on n'a pas encore réussi à trouver une juste réponse, une réponse sereine, je dirais. Hein. Et peut-être que, si vous voulez, on pourra, la prochaine fois, je vous proposerai, si vous le pouvez, lisez ce texte-là que je suis c'est intitulé « Les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation ». Et puis, nous en parlerons la prochaine fois. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Bien, le pacte est fait entre moi et vous, donc on fera comme ça la prochaine fois, on commencera par ce texte et peut-être vos expériences à ce niveau-là, et puis nous continuerons avec le dernier sacrement. Est-ce qu'on peut dire, peut-être qu'il y en aura 8 ou 9 dans quelques années, hein, de sacrements, mais disons, pour le moment il y en a 7, et nous arrivons au 7e sacrement qui est l'onction des malades, et donc nous le ferons mardi prochain. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute.
Merci.
Et je vous souhaite une bonne nuit.
Merci. Bonne nuit à vous.
Bonne nuit à vous aussi.
À bientôt.
Merci à vous. Merci.
À bientôt.
Bonne nuit.